création
on air.
On air.
On air.
Creation on air. Bonsoir. Le premier titre de cette création était La jeune fille russe et le film caché de Jean Cocteau, Coriolan. Sous-titre, une phrase du poète, plus on touche au mystère, plus il importe d'être réaliste. Être réaliste, ce sera ce soir naviguer des labyrinthes de Kaliningrad aux douves du domaine de Jean Cocteau, en compagnie de Masha, une petite fille russe, fascinée par un chef-d'œuvre invisible, Coriolan. Un film fantôme, ressuscité par Ludovic Chavarro et Céline Terce, pour création On Air.
Accusé, asseyez-vous. Vous avez écrit « Jamais homme ne fut environné de tant d'incompréhension ». Vous avez écrit aussi « Je suis un homme recouvert de légendes plus absurdes les unes que les autres ».
Jeunes gens qui fréquentaient les salles d'ombre, qui en sortaient la tête pleine d'un tumulte, exprimez-vous par cette encre de lumière. Ne craignez plus les barbelés que l'on installe autour d'un faux mystère.
Vous allez entendre une version latine d'Édipe roi. Afin de vous épargner tout effort d'oreille et de mémoire.
Votre papa est connu pour avoir filmé un chef-d'œuvre inconnu, qui est un film de Cocteau, qui s'appelle Coriolan.
Oui.
Elle lui tend depuis sa naissance un piège.
Alors comment fait-on pour voir Coriolan ?
Voici le drame. Thèbes se démoralise. Après le sphinx, la
peste. Je m'appelle Masha, Monsieur Kova. Je viens de Kaliningrad, au bord de la mer Baltique, en Russie. Et je suis venue en France il y a 6 ans et demi.
Il est très difficile de rencontrer Jean Cocteau. Vous croyez qu'il est dans les coulisses de l'Aigle à deux têtes ? Pas du tout. Il est à Milly, dans cette campagne où il aime à recevoir ses amis.
Coriolan. Corps violent et film caché de Jean Cocteau.
En 1292, la féodalité n'avait pas encore pris sa forme définitive. Des luttes sournoises mettaient aux prises la noblesse des terres et la noblesse du roi. Il en résultait des guerres, dites guerres des princes, qui lésaient le peuple sans enrichir les seigneurs.
Accusé, asseyez-vous.
Bien, je suis plutôt de la race des accusés que de la race des juges. Je suis de la race debout, mais je vais m'asseoir.
Kaliningrad, c'était anciennement une ville allemande qui s'appelait Königsberg. C'est une ville un peu bizarre parce que c'était complètement détruite à la fin de la guerre. Et en fait, il reste très peu de traces d'architecture allemande. Et tout le peuple a fui. Et c'était complètement repeuplé par des gens qui venaient de l'Union soviétique. dans les années 80, on a vécu dans un immeuble social de 10 étages, glauque, gris, noir et blanc. Il pleuvait tout le temps. Asphalte cassé. Et tout autour de ma maison, il y avait des maisons pareilles. Tout était pareil. Et quand j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de temps sur mon balcon en imaginant des histoires et des vies que ce genre vit. Et parfois, en regardant par la fenêtre, j'ai vu des cadavres sur la terre.
Mode d'emploi. Saisir la crosse du revolver à pleine main. Ôter le cran d'arrêt. Armé. Poser l'index sur la gâchette. Appuyer le canon contre la tempe et tirer.
Prisonnier des geôles de Técalémite, domaine de l'illustre famille des Popov, Coriolan s'évade. En son château de Técalémite, le comte Popov, gardé par ses chiens de traîneau, compulse un traité de chasse à l'aigle. Le luxe de ces époques féodales dépasse l'imagination humaine.
Et il y avait 25 forteresses autour de la ville. À l'époque, on essayait d'accéder au site interdit. Il y a un énorme labyrinthe en dessous de la ville et même en dessous de la fleuve qui traverse la ville, qui était utilisé pendant la guerre. Et on pouvait même sortir entièrement de la ville et accéder plus loin la route sur Berlin. Et donc, on était un peu dans l'aventure de découvrir quelque chose qui était caché par le passé. Et avec Vlada, avec ma copine, on a, en cachette, trouvé la porte d'entrée dans des catacombes et on est descendu se promener un peu. Mais pas trop loin parce que on était petite et on a eu peur de se perdre dedans.
Aucun de ces grands seigneurs ne serait descendu pour tourner les pages, à mouiller son doigt sur sa propre langue.
Une belle lascive surgit derrière un paravent.
Le comte a égaré ses lunettes. Il appelle son intendant. L'intendant croit que c'est pour le service de langue. Il se trompe. Ivre de rage, le comte Popov le frappe sauvagement.
La fameuse pièce léopard, j'imagine.
Le bureau, donc qui est léopard du sol au plafond, auquel se joint le canapé, qui est aussi en tissu velours léopard. Et alors, c'est une petite pièce qui fait une dizaine de mètres carrés, qui a la plus belle vue sur le jardin. Et d'ailleurs, on peut voir que Cocteau a mis son bureau en face de la fenêtre pour avoir cette vue, cette perspective jusqu'au parc.
La difficulté d'être. Et voilà. Cela me frappe dans le calme de cette campagne, de cette maison qui m'aime. Que j'habite seul en ce mars 1947, après après une longue, longue attente. J'en pleurerai. Pas de ma maison ni de l'avoir attendue. D'avoir trop dit de choses à dire et pas assez de celles à ne pas dire. En fin de compte, tout s'arrange. Sauf la difficulté d'être. Ça ne s'arrange pas. Mars 1947.
Sa colère est terrible. Mais il se calme et consulte le ciel. Il cherche des aigles.
Dans Coriolan, il y a le corps d'or de l'ange Marais qui court sur les douves. Un conte fou et massié en chasse. En chasse, il tire.
J'ai tourné dans ma maison de campagne un film de 16 mm, Coriolan. Je l'ai tourné à 16 images pour empêcher la tentation du contre-type, c'est-à-dire de l'exploitation, et pour n'être gêné en rien dans mon écriture visuelle. Il en résulte une farce drôlatique et sans prétention aucune, mais dont l'intensité dépasse de beaucoup celle de mes films de 35 mm.
Coriolan, c'est un des courts-métrages de Jean Cocteau.
Frédéric Gimelot-Mesplan.
Il s'agit d'un film qui a été tourné assez rapidement, Amis et la forêt, me semble-t-il. Il est le plus difficile à identifier, à trouver. Je crois que le négatif est perdu, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est un film mythique, un film maudit.
C'était les années 90, les débuts des années 90, il y avait beaucoup de suicides. C'était quotidien, presque. C'était des années dures, économiquement et psychologiquement pour tout le monde, je pense. Les gens ne savaient pas comment la vie va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer dans le pays. C'était très difficile au niveau du travail et les gens ont vécu beaucoup de pression psychologique à cause de ça. Et j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je pense que les enfants, ils ont une relation très différente à la mort. Et en fait, tu es curieux, tu regardes, tu essayes de voir s'il y aura quand même un mouvement et une preuve de quelque chose qui continue après. S'il y a toujours des traces de vie qui surpassent la mort physique. Et après, il y avait des moments où la réalité et les rêves se croisaient. J'étais témoin de quelque chose et dans mon mémoire, ça restait comme des moments réels. Mais peut-être c'est une rêve. Une fois, j'avais 6 ans et il y avait beaucoup des ambulances qui ont venu parce qu'il y avait un homme qui était par terre. Et donc j'étais derrière un grillage et je regardais avec d'autres enfants ce qui était en train de se passer. Et puis je me souviens qu'ils ont dit qu'on récupère pas les suicidaires. Et pendant quelques jours, j'ai vu cet homme être assis sur une chaise avec une serviette blanche sur sa tête dans un costume du soir.
Où sommes-nous? La vie.
vie est longue à être morte. C'est la zone. Elle est faite des souvenirs des hommes et des ruines de leurs habitudes. Et tous les miroirs du monde peuvent conduire à cette zone. Je le suppose. Mais je ne voudrais pas me donner des gants. Ne croyez pas que j'en sache beaucoup plus long que vous.
Ma mère, Jean de Polignac, Jean Giraudoux, Édouard Bourdet sont les morts avec lesquels, ces derniers temps, j'ai eu commerce. Je les ai dessinés et on m'a longuement laissé seul dans leur chambre. Je les ai regardés de tout près pour en suivre les lignes. Je les touchais, je les admirais, car la mort soigne ces statues. Elle les déride. J'avais beau me dire qu'ils n'étaient pas occupés de ce qui m'occupe, que ces distances écœurantes les éloignaient de moi, je nous sentais bien proches, comme les deux faces d'une pièce de monnaie qui ne peuvent se connaître, mais ne sont séparées l'une de l'autre que par l'épaisseur du métal.
Eh bien, monsieur Jean Cocteau, après l'œuvre que vous nous avez donnée, et dans le domaine du théâtre et dans celui du roman, j'allais oublier également le domaine de la poésie, vous avez amorcé une œuvre purement cinématographique.
Le cinématographe est très jeune pour un art, il a 50 ans. Pour une personne, ce n'est pas très jeune, mais pour un art, c'est très très jeune. Pour une muse, c'est très très jeune. Et je crois que nous en sommes aux règles d'Aristote. Et tout est en train de dévier et de changer, et changer sur un plan très grave. Et je crois, par exemple, que le 16 mm va jouer un très grand rôle.
Le film de 16 mm que je viens de tourner dans mon jardin pousse les choses à l'extrême. Libre de tout souci matériel puisque je tournais avec la pellicule inversible Kodak et que ce qui coûte 5 millions me revenait à 5 000 francs, j'ai fait un film qui n'est pas un film le moins du monde. J'inventais au fur et à mesure, j'improvisais à la minute et j'employais comme artiste les personnes qui passaient le dimanche à ma campagne. Il en résulte une suite de scènes assez ridicules et inexploitables, mais auxquelles la liberté totale de dire ce qui vous passe par la tête communique une violence impossible à obtenir dès que la crainte de ruiner une firme entre en jeu.
Coriolan, libre, se venge sur un de ses ennemis. Cependant, le comte Popov part pour la chasse à l'aigle. Il croit voir un aigle, il tire. Ciel, un jeune chien tombe à ses pieds. Le comte Popov, qui adore les chiens, se lamente.
Il tombe. Le mannequin mort saigne des larmes de sang.
En fait, je viens d'une famille très simple. C'est juste ma mère et mes grands-parents et mon oncle. J'ai jamais vécu avec mon père, je ne lui connais pas. Et ma mère, elle a trouvé un prof d'anglais avec qui j'ai commencé à prendre des cours privés à 10 ans. Il m'a fait regarder Alfred Hitchcock quand j'avais donc 10 ans. Il m'a fait regarder Psycho 20 fois pour accélérer mon apprentissage de la langue anglaise. Et voilà, ça a commencé comme ça.
Alors, qui y a dans Coriolan, justement? Qu'est-ce que c'est que ce film?
On voit principalement Jean Marais et Josette Day et Cocteau. Ils font les clowns, Et puis, il y a quelques amis. On voit le patron du Catalan, le restaurant où ils allaient. On aperçoit Georges Jugnet, on aperçoit Paul Maurienne, des amis de l'époque.
Jean Genet.
Oui.
Nous l'avons tourné à la campagne, en deux dimanches, avec les personnes présentes. J'y joue aux côtés de Jean Marais, de Josette Day et d'un mannequin rapporté d'un bric-à-brac de studio. Mannequin autour duquel le film s'organise.
La propriété se compose de deux bâtiments. La maison du bailli, qui est celle dans laquelle nous nous trouvons, qui est l'espace dans lequel Cocteau a vécu, et le petit pavillon qui est juste à côté sur la propriété, qui logeait le personnel de Cocteau, sa cuisinière et son jardinier.
Pascal Léauté.
Est-ce que la maison possède des caves, des choses comme ça ?
Non, pas de caves, puisque nous sommes sur des marais et donc en terrain inondable. Et on a à peu près un terrain de 2,5 hectares ici, qui est composé d'un jardin d'agrément, du verger et ensuite du parc, mais qui à l'époque de Cocteau était un bois de chauffage inextricable dans lequel on ne pouvait pas vraiment rentrer.
Coriolan a entendu ses lamentations. Il cesse de fouetter son ennemi et court dans la direction des plaintes. Son ennemi saigne, plan muet. Popov entend quelque chose de suspect. Il écoute, mais lorsqu'il regarde, le chien est devenu une jeune femme. Coriolan débouche des fourrés. Il voit le comte. La jeune fille s'est transformée en son ennemi. Il approche et, profitant de l'effroi du comte, lui arrache son ennemi mort et disparaît.
Quand j'ai vécu à Kaliningrad, j'ai beaucoup travaillé pour le cinéma, qui est une très belle salle construite dans les années 30. Moi et mon professeur d'anglais, qui est devenu le directeur du cinéma et avec qui on a travaillé ensemble. Je pense que j'avais 17 ou 18 ans. Et en été, il pleuvait beaucoup. Et chaque fois que tu voulais aller à la plage, il y a du pluie qui arrive plus vite que toi. Et c'est mon ami, le professeur d'anglais, qui s'appelle Art. Il m'a appelé, il m'a dit, Masha, aujourd'hui, pas de plage. Il faut absolument que tu viennes dans le cinéma et que tu vois le film de Jean Cocteau, Orphée. J'ai trouvé dans des archives de Kaliningrad une copie 35 mm. C'est une belle copie. Il faut absolument que tu vois le film sur un grand écran. Tu vas adorer. Et donc, je lui ai cru. Je me suis retournée. Et j'ai passé l'après-midi dans notre salle du cinéma. Et j'étais complètement étonnée par cet univers. C'était comme si je connaissais déjà ce film et cette personne.
Vous avez prévenu, vous arrivez trop tard.
Trop tard ?
Montez.
Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ?
Je vous demande ce que vous faites dans ma chambre.
Il n'y avait personne d'autre dans la salle.
Quoi, ma femme ?
C'était très magique de regarder cette copie, cette belle, belle copie, 35 mm sur un grand écran.
C'est une plaisanterie bien étrange.
C'était vraiment un de ces moments dans la vie quand il y a quelque chose. Tu sais que ça va changer quelque chose dans ta vie.
Eurydice.
Voilà, c'était mon première rencontre avec Cocteau.
Cinéma, la dixième muse. Préside aux métamorphoses de cette vierge sensible à l'extrême et fécondée par la lumière. La vierge dormait, enroulée dans l'ombre. On la réveille. Elle qu'elle se déroule. Et elle doit vivre à toute vitesse la vie des autres. Peu de personnes, lorsqu'elles regardent un film, se doutent des dangers courus par l'image avant qu'elle puisse apparaître.
Les films que tourne Cocteau, les derniers courts-métrages qui tournent sont de plus en plus épurés au niveau du style. Alors il y a quand même un élément qui va jouer en ce phénomène, c'est des caméras beaucoup plus légères. Il existe une marque de caméras 16 mm à l'époque qui est la Panaflex. C'est une caméra qui est à la portée, je vais pas dire de toutes les bourses, mais Cocteau a les moyens financiers qui lui permettent d'acheter une Panaflex sans problème. Et puis, il n'est pas tout seul. À Midi-à-Forêt, il y a toujours une faune d'individus qui tournent autour de lui. Quand il tourne Coriolan, il est très probable qu'il y ait des assistants, même si les assistants ne sont pas crédités au générique. Il faut voir d'abord s'il y a un générique sur ce film, ça serait très intéressant, parce que qui dit générique dit accès à un banc titre. Donc là, si on disait qu'il peut avoir chez soi une Panaflex. En revanche, un banc titre, ça commence à faire beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut avoir un banc de montage.
Philippe Aki, auquel appartenaient les appareils de prise de vue et de projection, est un maniaque des machines et de la pêche. Je suppose qu'il conserve cet affreux document comme un trésor et le montre au compte-gouttes. Rossellini l'a vu et le trouve très beau. Il s'appelle Coriolan, parce que j'arrive en vieux chasseur d'aigle, sur la musique de Coriolan.
Blanc le torse nu de Coriolan qui s'échappe comme un albatros de la gueule noire de la fenêtre du manoir.
Le comte le regarde fuir avec stupeur.
J'ai terminé mes études à Kaliningrad et j'ai passé 6 mois à New York. J'ai commencé à prendre des cours de français à Alliance Française. Il y avait une vidéothèque là-bas. Et j'ai commencé à regarder tous les films de Cocteau qu'ils avaient dans leur vidéothèque. Enfin, j'ai eu accès à tout. Mais pas tout. Parce que à ce moment, j'accède aussi à la liste de filmographie de Jean Cocteau et je vois que parmi tous les films qui sont accessibles, il y a un titre que je n'arrive pas à trouver dans la vidéothèque. Et donc je commence un tour de tous les magasins de films dans East Village, à Chelsea, il y avait des endroits partout à Manhattan et personne n'a jamais entendu parler de Coriolan. Et ça m'a intriguée de plus en plus. Je me commençais à demander qu'est-ce que c'est ce Coriolan et pourquoi je n'arrive pas à le trouver nulle part. Et à la bibliothèque de l'Alliance française, j'ai cherché parmi tous les livres qu'ils ont une trace, une mention de Coriolan. Et je me suis tombée sur un livre des entretiens que André Frignot a fait avec Jean Cocteau. Et il y a juste
quelques petites pages où Frégnieux interroge Cocteau sur le sujet de Coriolan. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ce film n'a jamais sorti. Que ça existe dans une copie unique qui n'a jamais vu jour. Et en fait, Cocteau dit que c'est un grand luxe de posséder une œuvre invisible qui risque de devenir fort intéressante un jour. Et je me suis dit, peut-être c'est le moment de retrouver ce film. Et je me souviens comme si j'ai eu une explosion cosmique dans ma tête. Je me suis dit, il faut que je le retrouve. Et c'est devenu mon mission, a quest, ma quête personnelle.
Pendant qu'il le transporte, son ennemi est redevenu jeune femme. Coriolan court et dépose la jeune femme sur une pelouse. C'est la pelouse d'un croquet. Les joueurs furieux le menacent. Coriolan le brave est effrayé par leurs armes inconnues. Il se sauve.
Et dans une librairie à Moscou, je vais retrouver un seul livre qui était traduit en russe, La difficulté d'être. Il est devenu un moyen de dialogue avec Jean Cocteau, une rôle de dialogue. Comme Cocteau disait, c'est pas un journal, mais c'est une sorte de journal sur l'amitié, sur l'amour, sur la mort. Mais la manière dont il parle, c'est comme si il est en conversation avec toi.
Вы извлекаете книгу из кармана, читаете. И если вы способны читать так, чтобы ничто не отвлекало вас от написанного мной, постепенно вы почувствуете, что я живу в вас, и вы воскресили меня. Вы рискуете даже неожиданно перенять какой-нибудь мой жест, мой взгляд.
Вы sortez ce livre de votre poche, vous lisez. Et si vous parvenez à le lire sans que plus rien ne puisse vous distraire de mon écriture, peu à peu, vous sentirez que je vous habite. Et vous me ressusciterez.
Vous risquerez même d'avoir à l'improviste un de mes gestes, un de mes regards. Naturellement, je parle à la jeunesse d'une époque où je ne serai plus en chair et en os, et mon sang relié à mon encre. Nous sommes bien d'accord. N'oubliez pas qu'il importe que mes jambages devenus caractères d'imprimerie retrouvent en leur volute et les débouclent, entortillant momentanément ma ligne à la vôtre, à telle enseigne qu'il se produise un échange de nos chaleurs.
Si vous observez mes instructions à la lettre, il se produira le phénomène d'osmose, grâce auquel cette boîte assez dégoûtante, qui est un livre, cesse de l'être au bénéfice d'un pacte d'entraide, où le vif aide le mort et le mort aide le vif. Vous m'apporterez autant que je vous apporte. N'en parlons plus.
Les fantômes prisonniers de la pellicule ne se prennent pas au piège si facilement qu'on le pense. C'est d'abord une chasse sournoise qui les traque jusqu'à la minute où les éclairages les aveuglent et les obligent à se croire seuls, à s'exposer sans crainte, à verser parfois des larmes qui n'émeuvent pas les chasseurs cruels.
Le soleil blanchit le noir de l'image. L'époux, le jardin.
Coriolan, c'est forcément un film de contrebande, parce qu'on n'en trouve pas trace dans les archives de la commission d'agrément du CNC. Et à l'époque, pour faire un film, il était hors de question de tourner un film chez soi dans son jardin et de le distribuer en salle de cinéma. Il fallait absolument faire appel à ce qu'on appelait l'équipe minimum, qui consistait à un preneur de son, un assistant opérateur, un second assistant, un machiniste, une script. Il fallait moins de 10 personnes sur un tournage. Donc pour les films à petit budget, c'était même pas la peine d'y compter, quoi. Il y avait un verrou de la profession. Donc sans agrément, pas de film. Sans film, pas de distribution.
Du film maudit. L'invisibilité que Mallarmé baptise malédiction se produit dès qu'un homme cherche à contredire une mode, fût-elle d'extrême pointe. Après une longue époque d'énigmes, il arrive que l'audace se présente sous les auspices de la simplicité. Voilà une grande minute de solitude, car ni les simples ni les intellectuels ne la reconnaissent.
Quand j'ai travaillé dans la salle de cinéma à Kaliningrad, j'ai fait quelques amis à Paris, dont Claude Pnoteau, qui était le premier assistant de Cocteau quand il était jeune. C'était l'époque où je suis venue en France de temps en temps pour voir les lieux où vécu, travaillait Cocteau. Et chaque fois que j'évoquais le sujet de Coriolan avec, par exemple, Claude Pnoteau, il savait pas. Il a entendu parler de ce film et il n'a pas assisté au tournage et il savait pas si, même si c'était quelque chose qui existait pour vrai ou pas. Donc, mes voyages en France continuaient pendant 2 ans. Et toujours aucune trace de Coriolan. En russe, on dit qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin. Et je me souviens, je me suis dit, ça y est, j'arrête.
Ensuite, les bouts d'essai alignent le tableau de chasse et la pellicule passe à l'usine. On la développe trop ou trop peu. En 1943, les bains d'argent sont rares. C'était pourtant les bains d'argent qui donnaient à notre nymphe rapide le velouté de sa peau. Que d'obstacles il faudra vaincre avant la chambre de montage où le metteur en scène charme des kilomètres de serpents transparents.
J'étais de retour à Kaliningrad pendant le mois d'août 2010. Et un jour, avec une copine, on était dans le café de cinéma. Et elle me dit, Masha, tu sais, je vais avoir mes 20 ans et j'ai jamais vu Paris. Je lui dis, mais partons à Paris ensemble. Déjà, à cette époque, il y avait des vols pas chers qui partaient de Pologne pour Paris. Et comme ça, en improviste, on est parti à Paris pour un voyage de 10 jours. On ne savait pas où on va se loger. On n'avait pas d'un agenda précis. On était super heureuse, excitée de faire ce voyage de a girl's trip ensemble. Donc, il y avait une fille qui nous a prêté une chambre de bonne. Et Paris était vide. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'amène Anastasia visiter le Pont des Arts et la rue de Seine, où il se trouve une petite boutique de Jean Cocteau. Et dans la vitrine, il y a une miroir et une énorme photo de Jean Cocteau en plein taille. Et moi, chaque fois que j'ai traversé Saint-Germain, je me suis arrêtée en face de cette photo et je lui parlais. Surtout les nuits. J'aimais beaucoup ça. Et donc, avec Anastasia, on est allé à Saint-Germain, traverser le pont des Arts, on a pris la rue de Seine, on a dit bonjour au portrait de Jean Cocteau. Et d'un coup, je vois une petite rue qui se sépare de la rue de Seine. Une ruelle que j'ai jamais vue auparavant. Et il y avait quelque chose qui m'attirait vers cette petite rue.
Votre père habitait à quel endroit à l'époque ?
Je crois que le premier appartement qu'ils ont eu à Paris, mes parents, c'était rue de Condé. Tout de suite après Rueil, ils sont passés de Rueil à la rue de Condé.
Donc la rue de Condé, c'est dans le 6e arrondissement à Paris,
oui,
hein, près du Luxembourg. Et c'est le quartier où vous habitez aujourd'hui. Donc vous êtes revenu dans le quartier de votre enfance.
Bah oui. Enfin oui, c'est vrai que je l'ai quitté quelquefois ce quartier. J'ai eu des appartements dans d'autres quartiers, mais enfin, oui, je suis revenu.
Il n'y avait personne. Il faisait très beau. C'était début d'après-midi, en dimanche, le ciel bleu. Et j'avais mon appareil photo avec moi. Et Anastasia, ma copine, c'est une très jolie jeune femme. Et je lui ai dit, Anastasia, il faut que je prenne une photo de toi. Et donc j'ai pris mon appareil photo. Quand j'ai vu un monsieur qui sortait de sa maison, il nous a regardés, il a commencé à marcher vers nous. À ce moment, j'ai pris la photo de ma copine et lui, il est imprimé sur cette photo. Et quand j'ai baissé ma caméra, il proposait de prendre une photo de nous deux ensemble. Il a dit que lui aussi, il était photographe à l'époque. Donc, il a pris quelques photos et il a dit « Vous voulez pas prendre une photo dans mon jardin ?» Et là, on a eu un peu peur. Mais je me suis dit « Bon, c'est un dimanche, on est quand même en plein cœur de Paris. Qu'est-ce que peut nous arriver de rentrer dans la maison de ce monsieur ?» Et donc, on est entré dans sa maison. J'ai compris tout de suite que c'est un endroit absolument extraordinaire. Et ça partait dans beaucoup de sens. Et, par exemple, il y avait une biche avec une tête d'une femme, une sculpture. Ou il y avait un puits où on pouvait voir la Seine. Et il y avait des œuvres surréalistes partout. Le monsieur se présentait Dan, il travaillait pour Paris Match, c'est tout ce qu'on savait. Il nous a dit que peut-être on se revoit avant qu'on part pour la Russie et on déjeune ensemble.
Un joueur croque une boule en se servant de la tête de la jeune femme. Les joueurs se précipitent et ils enchaînent la jeune femme avec des arceaux du croquet. Horreur. La jeune femme est redevenue l'ennemi de Coriolan. Un joueur prend l'ennemi de Coriolan par la tête. La tête lui reste entre les mains. Les joueurs terrifiés assistent à ce spectacle.
Je soupçonne aussi Philippe Aki de craindre qu'on accorde à cet amusement du dimanche une signification démesurée. Il serait lamentable que ce joujou tragique devint prétexte à des batailles de ciné-club. Inutile de vous dire que le mystère dont on l'entoure lui ajoute du charme et qu'on me le demande à n'importe quel prix dans tous les pays du monde. Pourquoi accepterais-je ? C'est un grand luxe à notre époque que de posséder une œuvre invisible qui risque de devenir fort intéressante un jour.
Il veut lui-même créer un film maudit, en fait, ni plus ni moins. Il a trouvé son nom, il a trouvé son lieu, il a trouvé le titre, c'est Coriolan. Ça va être le film maudit Cocteau, parce que malheureusement, tous les autres films ont eu du succès. Donc c'était bien le seul moyen de pouvoir faire un film maudit, c'est de faire un film que personne ne verrait, et il a magnifiquement réussi.
Quelques jours plus tard, on a reçu un message de Dan qui nous a invités de déjeuner ensemble. Et à ce moment, il me dit « Masha, tu sais, tu es vraiment obsédée par Cocteau, n'est-ce pas ?» Je dis « Oui ». Et d'un coup, ils disent « Mais tu sais, j'étais amie avec Jean Cocteau. C'était mon père qui était un ami très proche de Jean Cocteau. Ils ont même fait un film ensemble. Et avant qu'il continue, j'ai commencé à trembler et je me souviens, je disais, c'est pas vrai. Je juste disais ça à moi-même, mais à voix haute, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et Dan a dit... Tu sais, le film qu'ils ont fait, ça s'appelle Coriolan. Peut-être tu as entendu parler. Il a souri. Et il continuait, il a dit « Peut-être un jour, je vais te montrer le film. »
Le comte Popov a repris sa chasse. Cherchant des aigles, il voit soudain à la fenêtre de la maison du bailli la jeune femme et l'ennemi de Coriolan qui s'embrassent. Il tire. L'ennemi de Coriolan tombe par la fenêtre. Le comte est cloué sur place.
Je me souviens que je ne pouvais pas croire que c'est possible, que c'est ça ce qu'il est en train de me dire, qu'il a la copie de Coriolan. J'ai refusé à croire. Normalement, c'est quand tu apprends que quelqu'un est mort, tu as une réaction pareille, tu refuses d'y croire.
Femme sort de la maison, en larmes, se précipite sur le corps de l'ennemi de Coriolan et le couvre de baisers.
En fait, je ne savais pas qui est-ce. Daniel Filipacchi. Il nous a parlé un peu du fait qu'il était collectionneur d'art surréaliste. Et c'est à New York que, 2 ans plus tard, j'ai vu le film. Daniel, c'est quelqu'un surtout qui a beaucoup d'humour. Et quand j'ai rentré dans son appartement à New York, il y avait quelqu'un qui a ouvert la porte. Et derrière cette personne, j'ai vu Daniel qui ne bougeait pas, qui était juste debout à côté d'une mur, dans un costume un peu bizarre, américaine, des shorts et un polo et un baseball cap. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et j'ai vu le vrai Daniel qui approchait la porte et j'ai réalisé que c'était une sculpture de cire.
S'achève et la foule s'écrase devant ses portes. La pellicule tourne, se dévore, récite inlassablement la leçon apprise par cœur.
Je regarde le film, j'étais tellement dans l'émotion que je me suis dit, Macha, c'est pas possible. Si demain quelqu'un te demande qu'est-ce que c'était Coriolan et qu'est-ce que tu as vu, je ne pourrais pas récupérer du tout l'histoire ou d'ailleurs les images. J'ai eu une amnésie immédiate. Par contre, dans quelques temps, Daniel m'a envoyé un mail. Et il m'a dit qu'il a un peu oublié de l'existence de ce film et c'est lors de notre rendez-vous qu'il est souvenu de cette copie et qu'il voudrait que je garde le film et que j'exerce le testament de son père, parce que les deux, Cocteau et le père de Daniel qui a produit et filmé, toutes les deux, ils voulaient que le film reste caché et qu'il est montré aux amis proches. Et Daniel, quand il m'a passé le film, il m'a demandé de faire ça en fait.
Là, je dois dire que là, c'est un coup de maître, là, le fait de faire disparaître Coriolan. Alors, si théorie du complot, il y a ces complots dans le silence ou dans l'occultation de la copie pendant des années. Elle a été savamment orchestrée, alors. Mais il est certes évident que Cocteau a un geste surréaliste dans cette posture artistique qui consiste à faire le film avec, voilà, dans des conditions très épurées et de le faire disparaître, comme si le geste lui-même se suffisait.
En fait, le père de Daniel, Henri Filipacchi, il a détenu la copie unique de ce film qui, de Henri, est passé à Daniel. C'était la caméra de Henri et il vient à Mille-la-Forêt et il s'amuse pendant quelques week-ends entre amis avec la caméra 16 mm reversible. Donc le négatif, c'est le positif aussi. En fait, c'est vraiment la pellicule et unique.
Le comte va fuir. Mais Coriolan appelle et lui touche l'épaule. Le comte se statue.
Plus tard, j'ai rencontré des collectionneurs de Jean Cocteau à Bruxelles, Yanis Kontaxopoulos et Alexandre Prokopchuk, qui, eux, ils ont dans leur archive le scénario écrit à la main de Coriolan, qui est, je pense, une page et demie, très courte. C'est pas narratif dans le sens de long métrage, c'était un film plus expérimental. Donc il y avait des idées, mais il n'y avait pas de dialogue, c'est un film. Mais.
Coriolan le retourne, lui arrache sa casquette, sa barbe, symbole de sa puissance. Ensuite, il lui met la corde au cou. Le comte vaincu meurt.
Le rêve se fane. C'est une plante sous-marine qui meurt hors de l'eau. Il meurt sur mes draps. Son règne m'intrigue. J'en admire les fables. J'en profite pour vivre double.
Corps violent, corps violent et film caché de Jean Cocteau. Avec Masha Vassiukova, Frédéric Gemello-Mesplon et Pascal Léauté. James Thierry, lisait de Jean Cocteau, La difficulté d'être aux éditions de Poche. Du cinématographe et entretien sur le cinématographe aux éditions du Rocher. Augustin Guillot lisait le synopsis de Coriolan. Extrait de l'émission à voix nue, Daniel Filippaki, 23 janvier 2012. Coordination, Irène Omelianenko. Attaché d'émission, Chouchan Djergaillan. Prise de son, Frédéric Changenet et Yann Fressy. Mixage, Frédéric Changenet. Une création sonore de Ludovic Chavarro et Céline Terce. Remerciements à Barbara Bourzet.
Création On Air est disponible en podcast et en ligne sur notre site. Demain, ce sera New York, porte-voix de la disparition, par Nicolas Houdin. Tout de suite, Philippe Garbi et les nuits de France Culture.